Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de la radio des Nations Unies. Au menu, l'OMS et ses partenaires s'activent au Népal. 4000 Burundais demandent l'asile en RDC selon le HCR. Nouveau rapport de l'UNICEF sur l'enseignement des droits des enfants dans les pays industrialisés. Nous marquons la journée internationale du jazz. En dossier, nous revenons sur les tensions préélectorales au Burundi ainsi que sur le déroulement de la conférence sur le traité de non-prolifération à New York. On commence ce journal avec la situation au Népal. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture qui avertit que le séisme aura un impact majeur sur la sécurité alimentaire du pays. La FAO a lancé un appel de 8 millions de dollars pour aider les agriculteurs népalais à reprendre les préparatifs pour la saison des semailles de riz qui doit commencer fin mai. Entre-temps, Valérie Amos, la secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires, a entamé une mission de 3 jours sur place pour y évaluer les opérations humanitaires comme celle de l'Organisation mondiale de la santé qui s'active pour livrer des fournitures médicales critiques aux régions reculées du pays. Tariq Yassarevitch, porte-parole de l'OMS.
On est toujours dans la première phase de la réponse qui consiste à apporter une assistance médicale à tous ceux qui ont été vraiment blessés pendant l'impact, les gens qui ont des fractures, des blessures dans la corde épinale et qui ont besoin des interventions chirurgicales importantes. Les équipes internationales sont très importantes parce qu'elles peuvent être déployées dans les régions où n'existe pas vraiment les capacités pour faire ces interventions chirurgicales. Notre élément de la réponse qui est très important, c'est mettre en place un système de surveillance épidémiologique. Dans les situations où les gens ne sont pas chez eux, où il y a un problème de sanitation et de l'eau, il est très important de surveiller la situation et être prêt à intervenir au cas où il y aurait des maladies qui apparaissent.
Au Yémen, alors que les combats continuent, la poursuite des opérations d'urgence du programme alimentaire mondial est menacée, faute de carburant pour alimenter les camions de livraison. Il faut au PAM plus de 200 000 litres de carburant pour poursuivre ces opérations et nourrir 1,4 million de personnes pendant le prochain mois avec les stocks de vivres dont le programme dispose déjà sur place. Le point avec Elisabeth Beers, porte-parole du PAM.
Nous avions alerté déjà depuis plusieurs semaines que les réserves de carburant que nous avions allaient toucher à leur fin et que cela menaçait la distribution. Nous essayons entre mai et le mois de juillet prochain d'apporter une assistance alimentaire à 2 500 000 personnes qui sont touchées par le conflit au Yémen. Donc il nous faut ces stocks de carburant au plus vite. Le manque de carburant est dû essentiellement aux difficultés d'approvisionnement et aux conflits, l'intensification des combats, le fait que il y a des frappes aériennes, il y a au Yémen 12 millions de personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire. C'est une augmentation de 13% par rapport à avant le début du conflit.
Alors que les manifestations et les tensions préélectorales se poursuivent au Burundi ce jeudi, suite à l'annonce samedi de la candidature du président Pierre Nkurunziza, le haut commissaire pour les réfugiés affirme avoir reçu environ 4000 demandes d'asile de Burundais au sud Kivu en République démocratique du Congo. Les précisions de Céline Schmitt, porte-parole du HCR pour la région.
Selon nos équipes qui sont sur le terrain, dans le territoire d'Uvira et à Fizi également, nous avons environ 4000 demandeurs d'asile burundais qui sont arrivés depuis le début du mois d'avril, qui ont fui le Burundi pour chercher un refuge en RDC. La majorité des demandeurs d'asile qui arrivent sont effectivement des femmes et des enfants, donc plus de 56% sont des enfants. Alors la majorité arrive dans le territoire d'Uvira, ils traversent à cet endroit la frontière, ils arrivent à pied, d'autres traversent également le lac un peu plus au sud. Alors pour l'instant ils nous disent fuir des craintes de persécution, surtout donc des craintes de violence dans ce contexte préélectoral.
Peu mieux faire, les enfants des pays industrialisés n'auraient pas reçu d'enseignement adéquat sur leurs droits. Et ce, alors que selon la Convention des droits de l'enfant, les États parties s'engagent à faire connaître ces droits. C'est ce qu'affirme le nouveau rapport publié par l'UNICEF ce jeudi, qui indique que sur les 26 pays industrialisés compris dans le rapport, 15 n'obligent pas l'enseignement de ces droits dans les écoles. Écoutons Marie Wernham, consultante pour l'UNICEF.
Notre résultat surprenant, c'est dans aucun de ces 26 pays industrialisés, il y a l'obligation que les profs soient formés dans les droits de l'enfant ou qu'ils se familiarisent avec la Convention sur les droits de l'enfant. Et troisièmement, il y a un manque de contrôle et de suivi pour la qualité de cette éducation pour les droits de l'enfant. Et aussi, quatrièmement, il s'agissait de l'évaluation de la participation des enfants aux écoles. Par exemple, à travers des mécanismes comme les conseils, les comités des étudiants pour aider avec les gestions de l'école. Là aussi, il y avait un grand manque en ce qui concerne le droit des enfants à la participation.
En ce 30 avril, nous célébrons la 4e journée internationale du jazz. Cette année, Paris a été choisie comme principale ville d'accueil. Cette journée promeut le jazz en tant qu'outil de liberté et de créativité, d'unité, de dialogue et de coopération entre les peuples. Un concert a été organisé à l'UNESCO, auquel assiste le secrétaire général en visite dans la capitale française. Concert qui réunit des stars de la musique, dont le saxophoniste Guillaume Perret. Il mêle jazz, rock, métal lourd et d'autres influences. Il explique l'importance de cette journée et comment pour lui le jazz est synonyme de dialogue.
Bah, tout simplement parce que c'est devenu un art à part entière. Je trouve qu'il mérite largement cette journée d'honneur mondiale. Je trouve que le jazz nous donne tout un vocabulaire qui nous permet en fait de dialoguer avec tous les pays du monde. Et moi, c'est le meilleur des passeports, c'est la langue universelle, enfin, c'est la musique. Et c'est vrai, quand on rencontre des gens et qu'on partage un moment musical fort, on est tout de suite dans la famille, quoi. C'est quelque chose qui est assez immédiat. Et je trouve ça magnifique, je trouve qu'on est chanceux, nous musiciens, d'avoir ce pouvoir. Et le jazz, au fur et à mesure de son évolution, n'a pas arrêté de se renouveler, de se nourrir. C'est vraiment un style qui est riche. Et maintenant, même le mot jazz est presque réducteur par rapport à tous les styles qu'il rassemble.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité avec le Burundi et les tensions préélectorales. Suite à l'annonce officielle de la candidature de l'actuel chef de l'État aux prochaines élections présidentielles, des manifestations se déroulent depuis plusieurs jours. Les forces de sécurité auraient violemment réprimé. Le secrétaire général des Nations Unies a condamné la répression et dépêché son envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinit. Pour en savoir plus, Tsige Shiferau, adjoint Vladimir Monteiro, porte-parole de la mission d'observation de l'ONU au Burundi.
Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a officiellement annoncé que M. Pierre Nkurunziza serait son candidat aux prochaines présidentielles. Depuis dimanche, des manifestations ont lieu dans le pays de la part d'une partie d'organisation de partis d'opposition qui s'opposent à cette troisième candidature.
Quelle est l'atmosphère qui règne actuellement au Burundi et dans la capitale en particulier?
Des manifestations se poursuivent dans certains quartiers périphériques de la ville de Bujumbura. Hors de Bujumbura, et bien avant le samedi, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avait sorti un communiqué parlant d'un nombre extrêmement important, quelques 20 000 Burundais qui traversent la frontière de leur pays vers le Rwanda voisin. Et de plus en plus d'autres Burundais qui vont vers la Tanzanie, qui vont également vers la République démocratique du Congo. D'ailleurs, le chef de la mission des Nations Unies au Congo en a parlé hier.
Quelle est la position des Nations Unies par rapport à la crise actuelle au Burundi, à la veille des élections?
Secrétaire général ainsi que le Conseil de sécurité suivent la situation au Burundi, notamment la question électorale. C'est d'ailleurs une des raisons de la présence de cette mission d'observation. Récemment, on a eu une mission du Conseil de sécurité qui est venue et de son côté, le secrétaire général a eu un entretien téléphonique avec le chef de l'État, M. Pierre Nkurunziza, et cette semaine également, il y a eu un communiqué de son porte-parole qui condamnait la violence qui faisait suite à la nomination du président, demandait d'ailleurs aux autorités de faire une enquête. Et en même temps, il annonçait avoir dépêché son envoyé spécial pour la région des Grands Lacs pour essayer de mener des consultations avec les différentes parties, les chefs de l'État, le gouvernement, les partis politiques, les diplomates, les médias, la société civile, d'où la présence de M. Djinit.
Il est encore présent sur le terrain. Qu'espère-t-il obtenir en consultant toutes les différentes parties?
Le message du secrétaire général, c'est que les Burundais sauvegardent la paix. La paix, et c'est l'un des messages que M. Djinit essaie de passer lors de toutes ses rencontres. Mais en même temps, il demande aux différentes parties de parvenir à un accord pour que, d'abord, ce processus puisse être mené, également pour que le Burundi ne retombe pas dans la violence qu'il avait frappé durement dans le passé.
Comment voyez-vous la situation évoluer jusqu'aux élections ?
Cette situation actuelle est tellement préoccupante. Nous continuons avec les différents partenaires, que ce soit l'ensemble du système des Nations Unies, que ce soit avec les diplomates en place au Burundi, avec les organisations sous-régionales et continentales, à essayer d'aider le pays à trouver la voie et rester engagé dans un processus démocratique.
Est-ce qu'une réélection du président Nkurunziza menace ces accords d'Arusha ?
Je vous renvoie au communiqué du secrétaire général quand il s'est entretenu avec le président de la République en lui demandant d'examiner attentivement les conséquences potentielles pour le pays et son héritage de ses décisions dans la perspective de l'élection présidentielle.
La conférence des États partis au TNP, le traité de non-prolifération des armes nucléaires, poursuit ses travaux au siège de l'ONU à New York. L'occasion de faire le point sur les avancées dans ce domaine, le secrétaire exécutif du traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires a pris la parole mercredi devant la conférence parmi les États partis. L'occasion pour la Sina Zerbo de porter un message, faire avancer l'entrée en vigueur du TISEN, c'est créer les conditions pour faire avancer le TNP. Pour mieux comprendre, nous avons reçu le secrétaire exécutif du TISEN dans nos studios.
Le traité d'interdiction complète des essais nucléaires sensu stricto, c'est un traité d'abord qui stoppe toute prolifération horizontale, donc en termes de nombre de pays qui peuvent posséder l'arme nucléaire, et verticale pour ne pas permettre une amélioration des armes pour ceux qui les ont déjà. Et ça, c'est un traité qui cadre non seulement la non-prolifération, mais le désarmement, parce qu'il empêche une amélioration des armes de destruction massive. Et c'est le traité aujourd'hui qui paraît amener un consensus au niveau de tous les États partis. Et pour moi, faire avancer son entrée en vigueur ne peut être qu'un moyen d'avancer sur les questions difficiles du TNP. Je pense que si on avance vers son entrée en vigueur, on crée les conditions de confiance pour avancer sur le traité de non-prolifération de façon générale. Et ces trois piliers, l'utilisation passive de l'énergie nucléaire, la non-prolifération et puis le droit en fait à tout état d'avoir l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.
Alors pour la première fois, le secrétaire exécutif du TISEN s'adresse à la conférence du traité de non-prolifération et demande à ce que le TISEN soit pris sérieusement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Il faut se dire que le traité d'interdiction complète des essais nucléaires et la structure organisationnelle qui la dirige aujourd'hui était un embryon quand le traité de non-prolifération commençait sa série de réunions. Et donc, dans les règles et procédures qui sont établies, on traite plutôt des trois premiers articles de ce traité. Et donc le TISEN, qui est un article de support au traité de non-prolifération, n'a pas eu la place de choix parce qu'elle était encore embryonique. Mais là, nous sommes 20 ans en avant. Nous avons créé une structure qui a prouvé son opérationnalisation et qui est effective dans la détection des essais nucléaires et qui mérite aujourd'hui que les États sachent exactement où on en est.
Et qu'espérez-vous voir découler de cette intervention ?
C'est d'abord avoir un langage beaucoup plus structuré. C'est donner des étapes, c'est donner des milestones où on se trouve, qu'est-ce qu'on veut faire et quand on veut le faire et pourquoi on ne le fait pas maintenant et quels sont les éléments qui empêchent de le faire. Nous savons que les pays sont souverains, ils décident de leur processus de ratification avec leur structure parlementaire, mais nous, nous voulons les assurer de tous les éléments dont ils ont besoin, éléments politiques, éléments techniques que nous mettons à leur disposition et pour travailler à cet effet.
La reconnaissance donc du traité de non-prolifération, c'est reconnaître tous les acquis du TISEN.
Absolument. 20 ans après, savoir que le TISEN existe, que le TISEN fait partie de ce processus et qu'il faut savoir le reconnaître et reconnaître la structure organisationnelle qui la dirige.
Il manque 8 États clés pour que le TISEN puisse entrer en vigueur. Vous êtes celui qui mène l'effort pour que ces ratifications soient faites. Alors où en êtes-vous dans cette démarche ?
Nous travaillons jour et nuit pour préparer les éléments nécessaires dont ces États ont besoin et pour engager le processus de ratification avec leur Parlement. J'étais en Israël récemment et l'année dernière, les leaders israéliens m'avaient dit que la question de la ratification du TISEN n'était pas ainsi, mais c'était quand. Donc je suis reparti cette année pour travailler sur le quand. Nous voudrions créer les conditions à travers le traité d'interdiction complète des essais nucléaires pour dire voilà un traité qui peut amener un consensus et créer les conditions questions d'assurance et de réassurance pour que les États puissent accepter qu'ils ont un cadre de confiance entre eux et pour bouger sur la non-prolifération en général. Et ça, c'est le cas d'Israël. Nous travaillons aussi avec les États-Unis, avec la Chine, nous travaillons avec l'Iran, avec l'Égypte. Nous avons un peu plus de difficultés à approcher les Coréens du Nord, mais le ministre des Affaires étrangères russe, M. Lavrov, m'a assuré de son engagement à avoir les Nord-Coréens entrer dans le cadre de ce traité et accepter de ne pas conduire des essais nucléaires volontairement, comme c'est le cas avec les États-Unis et bien d'autres États. Voilà le travail que nous faisons et nous espérons que ça va porter fruit.
Et c'est avec Lassine Azerbo que se referme ce journal de la radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.